3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Durant une certaine partie de son histoire, Hollywood se lancera dans une tendance de transformer ses meilleurs films en téléséries. 12 Monkeys, Fargo, Hannibal, Bates Motel ainsi que Damien The Omen ne seront que quelques-uns de ces projets télévisuels qui verront le jour. Ce ne sera donc pas une surprise d'apprendre que la compagnie 20th Century Fox sera intéressée à prendre le concept du plus grand film d'horreur de tous les temps, soit dit Exorcist, et d'en faire une série télévisée, surtout après les échecs des films Exorcist 2, The Heretic, The Exorcist 3, The Exorcist The Beginning et finalement The Exorcist Dominion. Ce sera en 2012 que débutera la conception de cette série télé avec l'embauche du réalisateur canadien Sean Durkin, responsable de la réalisation du long-métrage dramatique Martha Marcy May Marlene en 2011. Cependant, Durkin quittera le projet et ce sera finalement le producteur-scénariste Jeremy Slater qui avait écrit précédemment les scénarios des films The Lazarus Project et la version initiale du script des Fantastic Four de 2015 qui sera alors embauché pour écrire le scénario de l'épisode pilote. Conçu à l'origine comme un reboot du film de 1973, Slater parviendra à convaincre les exécutifs de la Fox que le projet devienne une suite au film original, ceux-ci étant alors satisfaits de la version finale du script remis par le scénariste. Slater sera alors promu au poste de showrunner aux côtés de Rowland Jones, ainsi qu'au poste de producteur exécutif, et une première saison de 10 épisodes sera alors confirmée. James Robinson, David Robinson et Barbara Wall seront alors embauchés à titre de producteurs, alors que la compagnie Morgan Creek Entertainment s'associera avec 20th Century Fox Television pour financer le projet. Dès le lancement de la recherche pour la distribution, il fut entendu que les personnages des pères Marcus et Thomas soient interprétés par des acteurs inconnus du public, Ben Daniels et Alfonso Herrera étant alors choisis pour interpréter les deux rôles principaux. Par la suite, les studios Fox exigèrent un visage commercialisable que l'Amérique reconnaîtrait bien et ce sera finalement l'actrice Gina Davis, apparue dans The Fly en 1986, ainsi que l'acteur Alan Rock, paru dans Ferris Bueller's Day Off, qui interpréteront les parents de la jeune fille possédée, qui, elle, sera alors interprétée par l'actrice Anna Kasulka. Le tournage de la première saison aura lieu à Chicago, en Illinois, et le premier épisode sera alors diffusé le 23 septembre 2016 sur les ondes du Fox Network. La réponse au niveau des critiques sera excellente, tant au niveau des amateurs de l'univers de The Exorcist que des journalistes, ce qui forcera les exécutifs de la Fox à donner le feu vert pour une seconde saison qui sera alors tournée à Vancouver, et ce, malgré les faibles cotes d'écoute dues principalement au fait que la télésérie était diffusée les vendredis soirs, une grille horaire extrêmement difficile pour n'importe quelle série télé, à l'exception de The X-Files durant les années 90. Cependant, The Exorcist n'aura pas de nouveau la chance d'être renouvelé pour une troisième saison, le dernier épisode de celle-ci étant diffusé le 15 décembre 2017, mettant ainsi un terme à la série après seulement 20 épisodes. Cependant, ce sera plus les films The Exorcist 3 et les deux versions du quatrième long-métrage de la franchise, soit The Exorcist Beginning ainsi que Dominion, A Prequel to The Exorcist, qui seront ici les sujets de cette émission. Donc, préparez votre chapelet et soyez prêts à exorciser les démons de l'enfer dans cette émission durant laquelle nous jetterons un coup d'œil à la tentative de 20th Century Fox de renouer avec le succès d'un des plus grands films d'horreur de tous les temps, soit The Exorcist.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
So, let's be honest. Streaming is taking over. Platforms like Netflix, Hulu, and Amazon have caused an explosion in the market. But some of us can't help but ask, why? Where's the experience? What about that movie theater drink, candy, and popcorn combo? And then, the moment you've been waiting for, the movie starts. Or does it? The sad truth is, movie theaters are dying. So what can we do? One, buy a ticket. Or buy two. Ditch your TV streaming options at home and hit the theater. Because together, we can keep the movie theater experience alive.
The management and staff of this theater wish every one of you a very, very happy Christmas. Here's to a gay, exciting new year.
Hotshot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning, high voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager.
And now, on with the show.
Rated X.
Seventeen years ago, an extraordinary motion picture touched our most profound, nameless fears. Do you dare walk these steps again?
Death, be not proud, nor canst thou kill me.
Satan grows stronger.
You believe in possession, Father?
He has found a haven.
Come to take a little blood from you, Father.
He has taken possession.
The boy had been crucified.
His web widens.
I've just never seen anything like this in 20 years.
Inside this cell,
the killer drove an ingot into each of his eyes and cut off his head.
Inside a man.
Who are you?
I am no one.
A man we thought had died 17 years ago.
He is inside with us! He will never get away!
This time you're going to lose.
The real terror is back. George C. Scott in William Peter Blatty's The Exorcist 3.
The Exorcist 3, ou L'Exorciste, la suite, est un drame fantastique qui a été distribué par les studios Warner Brothers le 17 août 1990. Ce film américain d'une durée de 110 minutes a coûté 11 millions de dollars à produire et amassera plus de 44 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain William Peter Blatty, lui qui n'a réalisé qu'un seul autre film dans sa carrière, soit The Ninth Configuration. On y retrouve du côté du poste de producteur, le producteur américain Carter DeHaven, lui qui avait produit les films Hoosiers, Bestsellers et Carbon Copy, alors que William Peter Blatty, ici, servira de scénariste pour ce film, cet Américain qui avait écrit les scénarios de Darling Lily, The Great Bank Robbery et, bien sûr, The Exorcist. Dans la distribution, on y retrouve l'acteur George C. Scott, Ed Flanders, Jason Miller, Scott Wilson, Brad Dourif, Grant L. Bush, Nicole Williamson, Nancy Fish, Tracy Thorne, Barbara Baxley et Harry Carey Jr. À Georgetown, un meurtrier commet des assassinats rappelant ceux d'un tueur en série exécuté 15 ans auparavant. Cela forcera un inspecteur de police à replonger dans un ancien cas de possession des années 1970 lorsqu'il découvre qu'un prêtre censé être mort après avoir exorcisé une fillette possédée par le démon est actuellement en vie et résidant dans un hôpital psychiatrique et que celui-ci semble mystérieusement relié à ces nouveaux meurtres. Suite à la déception liée à la sortie du film The Exorcist 2 The Heretic en 1977, les exécutifs des studios Warner Bros. Se tourneront de nouveau en direction de l'auteur de l'œuvre originale, soit William Peter Blatty, qui n'arrêtait pas de réfléchir à l'idée d'une suite à son œuvre de 1973, et ce, malgré qu'il eût refusé à l'origine d'écrire et de produire cette même suite. Cependant, il écrira un synopsis en 1979 intitulé « Legion » qui mettait alors en vedette le personnage du lieutenant Kinderman, ce policier qui eut un rôle mineur dans l'histoire originale. Blatty proposera l'idée au réalisateur de l'adaptation cinématographique de son roman en 1973, William Friedkin, qui adora le concept de cette nouvelle histoire et qui acceptera alors de participer au projet en tant que réalisateur. Les exécutifs de la Warner Bros. Étaient également emballés par l'histoire et donneront le feu vert au projet. Cependant, un conflit entre Blatty et Friedkin surviendra rapidement en raison d'opinions contradictoires sur la direction de ce troisième opus, ce qui forcera Friedkin à quitter le projet, mettant ainsi fin à celui-ci. Blatty se servira alors de son synopsis pour écrire un roman intitulé « Legion ». Une sorte de pseudo-suite qui suivra le lieutenant Kinderman confronté à l'esprit d'un meurtrier appelé le Gemini Killer, subtilement inspiré par le Zodiac Killer qui terrorisera la ville de San Francisco de 1968 jusqu'en 1974. Le livre de 248 pages sera publié en 1983 par la maison d'édition Simon & Schuster et obtiendra un certain succès. Mais ce succès sera terni par une situation qui opposera l'auteur au New York Times lorsque son roman sera exclu de la liste des best-sellers du célèbre journal, et ce, malgré les ventes qui le justifiaient, Blatty décidant alors d'intenter une action en dommages et intérêts de 3 millions de dollars contre le Times, plainte qui sera alors rejetée par le tribunal, affirmant que la poursuite était infondée et frivole. Entre-temps, Blatty travaillera sur le film « The Ninth Configuration », un drame psychologique que l'auteur adaptera de son roman écrit en 1978. Le film, qui sera financé en partie par Blatty lui-même, marquera les débuts derrière la caméra de l'écrivain à titre de réalisateur. Le film, qui sortira en 1980, ne sera pas un succès au box-office, mais obtiendra tout de même 3 nominations à la 38e édition des Golden Globes, où il remportera le prix du meilleur scénario. Les droits d'adaptation cinématographique de Legion feront l'objet d'une demande d'offre entre les studios de production Morden Creek et Carolco. Blatty ne sera pas satisfait de la proposition des exécutifs de Carol Coe, ces derniers demandant à Blatty de changer l'histoire de son roman et de remplacer celle-ci par un concept dans lequel le personnage de Regan donnerait naissance à des jumeaux possédés. Blatty se tournera alors en direction des studios Morgan Creek. Juste avant la signature avec les studios, Blatty offrira la réalisation de The Exorcist au réalisateur américain John Carpenter, qui avait précédemment réalisé des classiques tels que Halloween, The Thing et The Fog. Mais ce dernier refusera, proposant plutôt à Blatty de réaliser lui-même le long métrage. Blatty acceptera donc l'offre de Morgan Creek sous deux conditions. La première serait de tourner le film sur place à Georgetown plutôt qu'en studio, et la seconde, que Blatty réalise lui-même le film, conditions qui seront alors acceptées par les exécutifs de Morgan Creek. Pour le choix de la distribution, Peter Blatty devra remplacer l'acteur Lee G. Cobb, qui interpréta le personnage de Kinderman dans le film original de 1973, puisque l'acteur était décédé en 1976. Ce sera donc le comédien George C. Scott qui sera engagé pour ce rôle, ce dernier étant fortement impressionné par le scénario du réalisateur-scénariste. Dans sa distribution, Blatty s'entourera d'acteurs avec qui il sera à l'aise, dont Brad Dourif, Scott Wilson, l'animateur de télévision Larry King et une première apparition d'un jeune acteur du nom de Samuel L. Jackson. L'actrice Zora Lampert, qui interprétera le rôle de la femme de Kinderman, était principalement connue pour son rôle dans un autre film d'horreur, soit Let's Scare Jessica to Death, distribué en salle en 1971. Quant au père William O'Malley, celui-ci ne pourra reprendre son rôle du père Dyer et sera alors remplacé par le comédien Ed Flanders. Ce sera l'actrice Sylvia Sidney qui sera également embauchée pour interpréter le personnage de la belle-mère du lieutenant Kinderman, mais cette dernière ne pourra terminer ses séquences durant le tournage, étant alors remplacée par l'actrice Barbara Baxley, dont l'apparition dans Exorcist 3 fut sa dernière avant sa mort le 7 juin 1990. Le long-métrage devait être à l'origine tourné à Montréal. Cependant, selon la demande de Blatty, le tournage débutera dans le quartier de Georgetown à Washington le 5 juin 1989 et se poursuivra à Wilmington, en Caroline du Nord, de la fin juin jusqu'au début juillet 1989. La production se terminera alors le 7 août de cette même année. Avec un budget de 11 millions de dollars et le titre provisoire Exorcist Legion, le tournage de 8 semaines sera très difficile pour le jeune réalisateur. En effet, Blatty et l'acteur George C. Scott ne s'entendront tout simplement pas pendant le tournage, Scott étant reconnu pour être difficile à travailler. De plus, l'acteur Jason Miller, qui avait de graves problèmes d'alcoolisme à cette époque, n'était pas disponible, ce qui forcera alors l'embauche de l'acteur Brad Dourif pour interpréter le personnage du Jiminy Killer. Cependant, lorsque Miller est devenu disponible après la fin du tournage, les exécutifs du studio Morgan Creek insisteront pour que Blatty trouve un moyen de mettre l'acteur dans le film. C'est alors que Blatty fera un compromis et lorsque le patient X est lucide et placide, il sera interprété par Miller, mais lorsque le patient X redeviendra le Jiminy Killer, ce dernier sera alors interprété par Dourif. Cependant, Miller avait énormément de difficultés à mémoriser ses lignes, surtout de longs monologues que devait livrer son personnage tout au long du long métrage, dialogues qui seront alors redonnés à Dourif. Finalement, les exécutifs de Morgan Creek n'avaient pas tout à fait confiance dans les talents de réalisateur de Blatty et étaient continuellement sur le plateau de tournage à superviser chacun de ses gestes. Malgré cela, le tournage se terminera dans les délais prévus et à peine au-dessus du budget originalement accordé. Le prévisionnement par un auditoire test fut très négatif, forçant les exécutifs de la 20th Century Fox, qui s'étaient avancés pour distribuer le long métrage, à investir plus de 4 millions de dollars afin de permettre à Blatty de retourner une nouvelle conclusion à son film et surtout d'y inclure une scène d'exorcisme, car l'histoire originale que le réalisateur-scénariste avait vendue au studio Morgan Creek n'en possédait aucune. Au départ, Blatty ne désirait pas ajouter cette séquence finale, mais après avoir vu les résultats des tests de prévisionnement, résultats les plus bas qu'il avait vus de sa carrière, Blatty se lancera dans l'écriture d'une nouvelle conclusion. Ce sera à ce moment que sera embauché l'acteur Nicole Williamson, ce dernier interprétant alors un nouveau personnage, soit celui du père Mourning. C'est donc 4 mois plus tard que Peter Blatty retournera sur le plateau de tournage afin de réaliser cette nouvelle conclusion. Pour la voix alternée du démon, ce sera l'actrice Colleen Dewhurst qui sera alors embauchée, cette dernière étant à cette époque mariée avec l'acteur George C. Scott. Dewhurst ne sera nullement crédité au générique de la fin pour son travail sur la post-production. Lorsque la maison de production Morgan Creek apprendra que la parodie de film de possession Repossessed, qui mettait en vedette l'acteur Leslie Nielsen et l'actrice Linda Blair, devait sortir en salle en 1990, ils ont immédiatement précipité la sortie d'Exorciste 3, mettant une grande pression sur Peter Blatty et son équipe de post-production. Exorciste 3 sortira un mois seulement avant la parodie Repossessed, détournant la publicité de ce dernier et forçant la comédie à sortir un mois plus tard que prévu à l'origine. Morgan Creek Productions suspendra les projections de Price jusqu'à quelques heures avant l'ouverture du film à l'échelle nationale. Exorcist 3 sortira pour la première fois en octobre 1989 sur le marché européen, puis ouvrira en Amérique du Nord dans plus de 1288 salles, arrivant en tête du box-office nord-américain. Cependant, les ventes chuteront de plus de 61% durant le deuxième week-end, s'étant attiré des critiques mitigées. Au final, le drame fantastique amassera plus de 26,1 millions de dollars sur le continent nord-américain, alors qu'un montant additionnel de plus de 18 millions sera amassé du côté international, une déception pour 20th Century Fox, le film original ayant amassé plus de 441 millions de dollars dans le monde entier. Au Saturn Award, William Peter Blatty remportera le prix du meilleur scénario, alors que Brad Dourif sera nominé comme meilleur acteur dans un second rôle. Mais le film sera également nominé pour le pire acteur au Razzies Awards, soit George C. Scott, qui sera sauvé de l'insulte par l'acteur Andrew Dice Clay, qui remportera le prix de la pire performance grâce à sa prestation dans The Adventures of Fort Furlane. Pendant des années, William Peter Blatty désirait revisiter son film afin de lui redonner sa vision initiale, mais malheureusement, les studios perdront une grande partie des images du long-métrage dans un terrible incendie. Il faudra attendre en 2016 avant d'avoir une version du réalisateur qui sortira alors en DVD et qui sera alors renommée Exorcist 3 Legion. Cela sera possible grâce à la découverte d'images contenues sur des cassettes VHS présentant des images tournées du réalisateur à l'époque aux exécutifs de Fox et de Morgan Creek. Ces images furent donc récupérées et retravaillées pour être finalement remontées dans la version finale du réalisateur. The Exorcist 3 deviendra plus tard un point central au procès du tueur en série Jeffrey Dahmer, qui s'identifiera au Jiminy Killer et jouait le film pour certaines de ses victimes avant de les assassiner. Dahmer serait même allé jusqu'à acheter des lentilles de contact jaunes pour ressembler davantage à Jason Miller. Avec le temps, plusieurs personnes impliquées sur la production d'Exorcist 3 nous quitteront, dont l'acteur George C. Scott, qui décédera le 22 septembre 1999 à l'âge de 71 ans d'une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale, Jason Miller, décédé le 13 mai 2001 des suites d'une crise cardiaque à sa résidence de Scranton, en Pennsylvanie, Nicole Williamson, qui perdra la vie le 16 décembre 2011 à l'âge de 75 ans, 2 ans après avoir reçu un diagnostic d'un cancer de l'œsophage, et finalement, l'auteur, scénariste, réalisateur et producteur William Peter Blatty, qui décédera d'un myélome multiple le 12 janvier 2017, dans un hôpital de Bethesda, 5 jours avant son 89e anniversaire. Du côté des points forts, eh bien, la réalisation de Blatty ici est assez audacieuse et nous démontre ici un jeune metteur en scène qui possède un assez bon instinct de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Exorcist 3 bénéficie d'une bonne idée de départ et surtout d'une ambiance sinistre et menaçante qui inclut quelques séquences tout à fait impressionnantes. Bien que l'interprétation de George C. Scott soit par moments trop agressive, la relation qui est développée entre lui et le personnage du père Dyer est amusante et bien campée par les deux acteurs. Quant à Brad Dourif, ce dernier est ici excellent dans le rôle du Jiminy Killer. Exorciste 3 se veut beaucoup plus un film cérébral qu'un film commercial et est beaucoup plus un drame policier avec une touche de surnaturel que d'un film de possession. Le plaisir de cette suite, qui est sans contredit la meilleure de la franchise, est le fait que Blatty décide de s'en aller dans une direction totalement différente des autres films, ce qui nous donne droit à un film original dans les circonstances. Mais du côté des points faibles, eh bien, l'intrigue de l'histoire sombre malheureusement vite dans une extravagance surnaturelle finale qui brise totalement avec le style implanté au début du film, ce qui est dommage ici. Le style lent et plus psychologique de l'histoire pourrait même ennuyer le spectateur à la recherche de sensations fortes qui s'attend à un long métrage possédant tous les ingrédients de son original. Mais le manque d'expérience de Blatty se fait sentir à la conclusion de son histoire, le réalisateur nous donnant un exorcisme final qui sort de nulle part et qui est beaucoup trop over the top avec sa violence excessive et surtout son aspect trop fantaisiste. Du côté de la musique, eh bien c'est le compositeur espagnol Barry de Vorzon qui nous avait donné The Warriors, Night of the Creep, Looker Xanadu et The Ninth Configuration qui s'occupe de la musique du film. Ici, je vous fais écouter un extrait de la trame sonore du film The Exorcist 3.
Intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed and all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now. As everyone knows, rainbows usually have a treasure at the end. Let's follow this one and see if we can find the pot of gold.
Mother, and I suppose you've come to claim me treasure.
Well, we'd like to see the gold first.
Ethan, there's better than gold in here, me lad. No, just look here, no.
Candy, refreshing soft drinks, popcorn, ice cream, piping hot coffee, delicious hot dogs. Well, that's some treasure, but anyone can buy luscious treats like these at the snack bar of their drive-in theater.
You don't tell me. Do you suppose you could get me a job as a snack bar attendant?
You've seen the show. It was quite a treat. But now you'd like something to eat, so right this way to the concession stand serving Castleberries, the best in the land. Yes, sir. Castleberries is real southern barbecue. Choice cuts of meat slowly cooked over open pits of smoldering oak coals for honest-to-goodness barbecue flavor. You'll also find hot coffee, cold soft drinks, and delicious ice cream in our snack bar to go with your Castleberry sandwich. Just look at that generous helping of rich, juicy barbecue. Yum, yum.
Hotshot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning, high voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager.
What's your pleasure, sir or madam, and all you kiddies too? Sandwiches, freshly made from quality ingredients, soft drinks, cool, tangy, and refreshing. A hot dog? There you are, tender, juicy, done to a turn with some fixings. Hamburgers, ma'am? Just the way you like them. Meaty, moist, and broiled to perfection.
The coming attraction.
And now, on with the show.
Rated X.
Mother, what's wrong with me?
What an excellent day for an exorcism.
Father Merrin.
How do you know my name?
I was sent here to search for the origin of a powerful evil.
This place, it's cursed.
You ever seen anything like it?
It's a church.
Churches were built to exalt heaven. But this, the weapons are pointing downward.
Lucifer fell.
There is something here, something evil.
Who would do something like this?
He's coming for you.
Hear my cry. Do not abandon me now.
God is not here today.
By the sign of this holy cross, by our Lord Jesus Christ, commands you!
Joseph, run.
Exorcist The Beginning, L'Exorciste Le Commencement, est un drame fantastique qui a été distribué par les studios Warner Brothers le 20 août 2024. Ce film américain, britannique, français, italien et pakistanais, d'une durée de 114 minutes, a coûté plus de 50 millions de dollars à produire et a amassé plus de 78,1 millions de dollars à travers le monde entier. De l'autre côté, nous avons Dominion, prequel to The Exorcist, ou Dominion, ce drame fantastique qui a été distribué par les studios Warner Bros. Le 20 mai 2005. Ce film américain d'une durée de 116 minutes a coûté plus de 30 millions de dollars à produire, mais n'a amassé que 251 495 dollars à travers les différents festivals en distribution limitée à travers les États-Unis. Du côté du poste de réalisateur pour The Beginning, on y retrouve le metteur en scène Rennie Harlan, ce réalisateur finlandais qui nous avait donné Cliffhanger, Deep Blue Sea et Mindhunters. On y retrouve le producteur américain James J. Robinson, lui qui avait produit les films Bad Moon, Ace Ventura et Ace Ventura When Nature Calls, et le scénariste américain Alexi Hawley, qui lui avait écrit les scénarios des séries télé The Following, The Rookie, et du film State of Affair. Du côté de Dominion, eh bien, c'est le metteur en scène américain Paul Schrader, lui qui nous avait donné Cat People en 82, Witch Hunt et American Gigolo. Au niveau du poste de producteur, c'est encore une fois James J. Robinson, ce producteur américain qui avait travaillé sur, bien sûr, Bad Moon et Ace Ventura 1 et 2. Et au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste américain William Wisher Jr., lui qui avait travaillé sur les scénarios de la version de 95 de Judge Dredd et de 13 Warrior, ainsi que Caleb Carr, ce scénariste américain, qui avait travaillé sur Bad Attitude, The Osiris Chronicles et The Alienist. Au niveau de la distribution, eh bien, pour The Beginning, on y retrouve Stellan Skarsgård dans le rôle du père Merrin, Isabella Skorupko, James Darcy, Ralph Brown, Julian Wadham, Andrew French, Ben Cross et Rémi Sweeney. Alors que du côté de Dominion, on y retrouve toujours l'acteur Stellan Skarsgård dans le rôle du père Merrin, mais cette fois-ci, il est accompagné des acteurs Gabriel Mann, Clara Bellar, Billy Crawford, Julian Wadham, Ralph Brown, Israel Adouramo, Andrew French et Anthony Kamerling. Témoin des pires horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, un prêtre ayant perdu la foi fait la rencontre d'un collectionneur d'objets antiques qui l'invite à se joindre à des archéologues ayant découvert, ensevelie dans une région éloignée du Kenya, une église de style byzantin dans un état de conservation remarquable où sommeille une force maléfique. Le concept d'une prequel centrée sur un très jeune père Merrin, interprété par l'acteur Max von Sydow dans le film original de 1973, flottait dans les coulisses des studios Warner Bros. Depuis les années 1990. Ce sera le producteur James J. Robinson qui débutera alors le développement en 1997 du projet avec l'embauche du scénariste William Wisher Jr., co-auteur de Terminator 2 Judgment Day, afin que ce dernier rédige la toute première ébauche du scénario. En octobre 1999, les exécutifs de la compagnie de production Morgan Creek Productions, qui s'occupait du financement du long-métrage, embaucheront le réalisateur américain Tom McLaughlin, qui avait réalisé Friday the 13th Part 6 Jason Lives, afin de diriger le film. Avec un scénario enfin en place, la production devait avoir lieu au printemps suivant en Afrique, mais malheureusement, McLaughlin quittera la production en raison de problèmes avec le scénario. En octobre 2001, Robinson embauchera alors le metteur en scène américain John Frankenheimer, responsable de la mise en image de The French Connection numéro 2, avec un tout nouveau scénario qui fut revisé par le scénariste Caleb Carr. Ce sera alors l'acteur Liam Neeson qui sera embauché pour interpréter le personnage du jeune père Lancaster Merrin. Après qu'une date de sortie en juillet 2003 ait été fixée, Frankenheimer sera contraint de se retirer du projet en raison de graves problèmes de santé et sera alors remplacé par le metteur en scène Paul Schrader. Suite au départ de Frankenheimer, Neeson se retirera également du projet. Un mois après son remplacement, John Frankenheimer décédera subitement à Los Angeles, en Californie, d'un accident vasculaire cérébral dû à des complications suite à une chirurgie de la colonne vertébrale le 6 juillet 2002. Il était âgé de 72 ans. Schrader, quant à lui, avait débuté la recherche de sa distribution et embauchera l'acteur Gabriel Mann en avril 2002, alors que le tournage devait avoir lieu au printemps au Royaume-Uni ainsi qu'en Espagne. En mai, ce sera les comédiens Stellan Skarsgård et Billy Crawford qui seront ajoutés à la distribution, Skarsgård remplaçant alors l'acteur Liam Neeson dans le rôle du jeune Père Mérine. Le tournage débutera le 11 novembre 2002 au Maroc, alors que Vittorio Storaro sera embauché afin de s'occuper des tâches de la direction photo. L'équipe passera plus de 6 semaines à tourner au Maroc, puis 2 mois supplémentaires à Rome. Au moment où le tournage se terminera en février 2003, 6 scénaristes avaient contribué au scénario et le budget avait presque doublé. Malgré les éventuels problèmes auxquels Dominion sera confronté, la majeure partie de la production fut une affaire tout ce qu'il y a de plus normal pour l'équipe de tournage. Alors qu'il sera en post-production, Schrader présentera sa première version du montage, fidèle au scénario de Carr. Cette dernière durait plus de 130 minutes et ne possédait que quelques scènes de frayeur minimes, se concentrant plus sur l'aspect psychologique de l'histoire et sur ses personnages. Cette décision fut à l'origine prise d'un commun accord entre le réalisateur, le scénariste, la société de production Morgan Creek et les exécutifs de la compagnie Warner Bros. Mais c'est à ce moment que les choses ont commencé à mal se passer pour Dominion. Les exécutifs de Morgan Creek n'aimant tout simplement pas cette version initiale du montage. Dans les faits, ces derniers montrèrent leur dissatisfaction moins d'une semaine après la première projection, mettant à la porte leur rédacteur en chef. C'était un film d'horreur qui, dans son état actuel, était tout simplement difficile à vendre au grand public. Appuyé par les exécutifs de la Warner Bros., de lourdes rééditions et quelques reshots seront alors demandés à Schrader, qui, mécontent de la façon dont les choses se passaient, refusa de les filmer. Étant donné que sa relation avec le scénariste Callan Carr s'était également rompue, ce dernier l'ayant accusé d'avoir réécrit excessivement son scénario de base, Schrader sera alors forcé de quitter le projet cinématographique, laissant les studios Warner Bros. Avec la tâche peu enviable de sauver un film presque terminé. Le studio cherchera alors un nouveau réalisateur pour remplacer Schrader dans l'espoir de terminer le projet. Entrera alors en scène le metteur en scène Rennie Harlan, connu surtout pour son travail chevronné dans A Nightmare on Elm Street 4, Die Hard 2, Die Harder et Deep Blue Sea. Plutôt que d'effectuer quelques reprises et de remonter le film, Harlan suggéra de refaire tout le long métrage avec un scénario réécrit complètement et une nouvelle distribution centrale. À court d'options, le studio acceptera l'ensemble de la distribution principale, à l'exception de l'acteur principal Stellan Skarsgård, sera donc remplacé. Les scénaristes Skip Wood et Alexi Hawley furent également embauchés pour écrire un tout nouveau scénario et le tournage redémarra à l'hiver 2003 à Rome pour un film résolument plus commercial et beaucoup plus tourné vers l'action et l'horreur. Le superviseur des effets visuels Ariel Velascocha s'occupera de la photographie principale en Italie en collaboration avec la société locale Proxima, compagnie qui ne sera pas créditée au générique. Le concepteur des effets spéciaux Gary G. Tunnicliffe sera également embauché pour aider à la production. Mais, de nouveau, de graves problèmes surviendront lors du tournage. En effet, la jambe du réalisateur fut brisée après que ce dernier eut été frappé par une voiture, ce qui a entraîné une interruption de 2 semaines du tournage. Harlan poursuivra par la suite son travail, et ce, pendant plus de 6 semaines, avec des béquilles. De plus, d'autres situations intrigantes surviendront durant le tournage, dont ce moment dans lequel les pneus des voitures des membres de l'équipe exploseront à leur arrivée au studio sans aucune explication et qu'un membre de l'équipe verra le toit de sa maison éventré par 5 corbeaux. La production de cette nouvelle version se terminera après 12 semaines de travail. Lorsque les plans d'effets spéciaux passeront de 150 à plus de 500, le réalisateur Rennie Harlan n'eut alors d'autre choix que de relocaliser le travail de post-production aux États-Unis. travaillant avec des contraintes de temps et de budget, un nouveau superviseur des effets spéciaux, Brian Jennings, formera alors une unité interne de seulement 20 personnes, réalisant 430 plans en 4 mois seulement. 50 prises de vue supplémentaires seront également réalisées par la compagnie Pixel Magic, Meteor Studios, créant quant à eux les yens numériques. En juin 2004, le travail de post-production était toujours en cours, ce dernier se terminant à peine quelques jours avant la sortie officielle en salle du long-métrage. Après avoir initialement reçu un budget de 35 millions de dollars sous la direction de Schrader, les reprises et le travail de post-production firent grimper le budget du film à plus de 80 millions de dollars. Exorcist The Beginning sortira en salle en août 2004 avec de terribles critiques et de mauvais chiffres au box-office, amassant seulement 41,8 millions en Amérique du Nord et 36,2 millions au niveau international. Avant sa sortie en salle, Arlen a dû se battre avec les membres de la MPAA qui avaient classé son film NC-17 afin de gagner une cote restricted, ce qu'il parviendra à faire suite à quelques coupures. En avril 2004, Warner Bros. Home Entertainment commencera à envisager de sortir le film de Schrader directement en vidéocassette. Lorsque Exorcist The Beginning sous-performera au box-office, cela forcera en septembre 2004 les exécutifs de Morgan Creek à entamer des discussions avec Schrader sur la possibilité de donner à sa version une diffusion théâtrale limitée en 2005. Le monteur Tim Silano sera alors embauché pour assembler la version de Schrader, ce dernier insistant pour que le réalisateur soit ramené pour superviser l'édition de son propre matériel. Les exécutifs de Morgan Creek allouèrent un budget de plus de 35 000 $ et un très court laps de temps à Schrader pour terminer sa version. La maigre dépense fournie par le studio pour reprendre la dernière étape de post-production du film entraînera cependant de nombreux compromis, plus spécifiquement l'impossibilité pour Schrader de ramener le directeur de la photographie Vittorio Storaro pour effectuer les timings des couleurs du film, ni pour commander une partition originale musicale pour l'ensemble du film. Au lieu de cela, la participation sera développée au coup par coup avec 14 minutes de musique composée sans paiement par le compositeur Angelo Badalamenti. Les 20 dernières minutes du film seront écrites par le groupe de métal américain Dog Fashion Disco, ce choix inhabituel étant issu de l'affection du fils de Schrader pour le groupe. Le reste de la partition sera alors recyclé à partir du travail du compositeur Trevor Rabin qui avait réalisé la musique pour la version de Renny Harlin. Ce sera le groupe Dog Fashion Disco qui s'occupera de raffiner la musique du long-métrage dans son ensemble afin de lui donner une unité malgré ses sources disparates. Cette version d'Exorcist 4, désormais intitulée Dominion Prequel to the Exorcist, sortira dans quelques salles à peine 9 mois après la sortie en salle de The Beginning et amassera à peine 251 495 $ dans les salles américaines. Au final, cependant, la version de Schrader recevra une meilleure réception au niveau des critiques que celle de la version de Harlin. Alors que le film Dominion sortira officiellement en vidéocassette en octobre 2005, Exorcist The Beginning sera nominé pour 2 Golden Raspberry Awards dans les catégories Pire réalisateur ainsi que Pire remake or sequel, mais perdra contre 2 autres films de Warner Bros., soit Catwoman et Scooby-Doo 2 Monsters Unleashed, respectivement. Du côté des points forts, du côté de Exorcist The Beginning, le rythme et le visuel est beaucoup plus intéressant sur The Beginning ici que sur Dominion, la direction photo étant supérieure du côté de Exorcist The Beginning. Au niveau de la distribution, même chose, je dirais que les comédiens sont mieux réalisés et on a choisi une meilleure distribution du côté de Exorcist The Beginning que sur Exorcist Dominion. Une autre force aussi pour Exorcist The Beginning, c'est le fait que le réalisateur ici, Renny Harlin, s'amuse à nous montrer une quantité industrielle de clins d'œil au film d'original, ce qui sera plaire aux amateurs du film de 73. Mais du côté des points faibles, eh bien, disons que la réalisation de Renier Harlin est assez basic. Le réalisateur s'attardant ici à donner un peu plus d'action, mais en ne perdant pas son temps à développer ses différents personnages. D'ailleurs, je dirais même qu'au niveau du scénario, le scénario de Beginning est ici beaucoup plus faible parce qu'il arrive plein de situations qui ne vont pas nécessairement faire avancer l'histoire. Et ça, ça va au déprimant des personnages du dit film. Un autre point, c'est également l'interprétation de Skarsgård, qui est ici de loin inférieure à l'interprétation qu'il donne dans le film de Dominion. Donc ça, c'est un autre point très décevant pour le film de Renier Harlin. Du côté de Dominion, eh bien, du côté des points forts, bien, comme je disais, Skarsgård est juste parfait dans le rôle du père Merrin. La mise en scène de Paul Schrader au niveau de son acteur principal est de loin supérieure à l'autre film. On a également une direction photo qui est beaucoup plus, je vous dirais, terre-à-terre, mais qui est quand même assez belle. Et ici, bien, je vous dirais que le réalisateur s'attarde beaucoup plus à l'aspect psychologique du film, ce qui pourrait déranger un petit peu les amateurs de sensations fortes parce qu'il y en a beaucoup moins dans ce film-là qu'il y en a dans le film The Beginning. Mais du côté des points faibles, eh bien, les effets spéciaux, tout comme dans The Beginning en passant, sont vraiment de piètre qualité. On voit vraiment qu'on n'a pas mis beaucoup d'argent sur le visuel au niveau des effets spéciaux numériques. La musique aussi fait très série télé. On n'a perdu cette ambiance cinématographique qu'on avait dans The Beginning, bien on ne l'a pas dans Dominion à ce niveau-là. L'interprétation est vraiment moyenne au niveau de la distribution. On est loin d'avoir des acteurs excellents, que ce soit du côté féminin ou que ce soit du côté masculin. À part Skarsgård qui s'en sort vraiment admirablement bien, le reste de la distribution fait assez pitié ici. On a l'impression d'écouter avec Dominion un produit qui est incomplet, un produit où il manque de finition. Et je vous dirais d'ailleurs que l'aspect surnaturel à la fin du film est beaucoup trop poussé et ça casse avec le reste du film. Un dernier point faible à Dominion, je vous dirais que l'exorcisme final est quelque peu risible. D'ailleurs, je vous dirais, les deux exorcismes comme tels sont assez risibles. On est loin de ce qu'on avait eu en 1973. Du côté de la musique, eh bien, pour Exorcist The Beginning, c'était le compositeur sud-africain Trevor Rabin, lui qui avait travaillé sur les films Con Air, Deep Blue Sea, National Treasure et Snake on the Plains, qui a travaillé sur la trame sonore de ce film. Du côté de Dominion, eh bien, on a repris la majorité des séquences instrumentales de Trevor Rabin, mais on y a ajouté quelques extraits du compositeur américain Angelo Badalamenti, lui qui avait travaillé bien sûr sur Twin Peaks, Blue Velvet, Cabin Fever et La Cité des Enfants Perdus. Je vous fais ici écouter un extrait de la musique du film Exorcist The Beginning. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Exorcist 3, 5. J'y vais également avec une cote 5, principalement à cause de la fin. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma a coté le film Exorcist 3, 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour quelques scènes de violence. Au niveau de Exorcist The Beginning, le Mediafilm a coté le film 6. J'y vais également avec un 6. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, Beginning est coté 13 ans indicatif. J'y vais également avec un 14 ans pour plusieurs scènes de violence. Du côté de Dominion, eh bien, le film est coté 5 du côté de Mediafilm. J'y vais également avec un 5 mélangé avec un 6. Là, je dirais que la réalisation au niveau des comédiens est pas terrible au niveau de Dominion, mais le reste est quand même de meilleure qualité que The Beginning. Donc, j'y vais avec un 5 mi-tirant vers le bas. Du côté de la régie du cinéma, eh bien, on donne un âge de 13 ans indicatif et j'y vais également avec un 14 ans. Au niveau de la série télé, eh bien, du côté des points forts, je pourrais vous dire qu'il y a une excellente distribution, un bon développement de l'histoire et des personnages, ainsi qu'une ambiance sombre et crue. La télésérie comme telle est une véritable surprise pour les amateurs de la franchise, bien que quelque peu inégale. Cette série est ce qui est probablement ce qui a été de mieux qui a été fait dans l'univers de The Exorcist depuis le film de 1973. Le développement de l'histoire demeure terre à terre et nous montre sans détour ridicule la difficulté pour nos prêtres de garder leur foi face aux différentes menaces démoniaques et humaines qu'ils doivent affronter. Et bien que la première saison ait ses hauts et ses bas, la seconde saison est véritablement excellente, notamment l'épisode 3 qui nous montre un côté dérangeant de l'exorcisme et les raisons pour lesquelles les règles de base de l'Église catholique ont été instaurées. Toujours du côté des points forts, ben, le showrunner fait attention de ne pas dévoiler trop rapidement ses cartes, ce qui fait que le spectateur ne sait pas vraiment vers où va se diriger l'histoire, ce qui va donner droit à quelques surprises et surtout quelques moments sombres. Un des aspects intéressants de cette série est de voir comment l'entité démoniaque réussit à prendre possession de son hôte, du moins les principaux. Et la première saison comprend également beaucoup de clins d'œil au film original de 73 et se veut une lettre d'amour au film original. Malheureusement, l'histoire va un peu trop loin et fait un lien un petit peu trop direct avec l'œuvre originale, ce qui est dommage parce que l'histoire aurait gagné à rester séparée du film de Friedkin. Mais d'un autre côté, pour les amateurs, les clins d'œil sont très appréciés et c'est des clins d'œil que vous allez voir tout au long de la série, pas juste sur le film original, mais également sur les autres films de la franchise. Mais du côté des points faibles, bien, par moment, la série, elle va couper les coins ronds pour arriver à ses fins, surtout en première saison. D'ailleurs, les personnages, autres que ceux qui nous intéressent principalement ici, sont par moment trop facilement possédés par les esprits démoniaques, ce qui enlève un peu l'aspect sérieux de la série télé. L'histoire secondaire mettant en vedette l'Église catholique qui est infiltrée par des êtres possédés par une horde de démons qui communiquent entre eux est totalement risible et totalement ridicule et enlève toute chance au showrunner de se concentrer uniquement sur nos deux prêtres vedettes et ainsi s'intéresser beaucoup plus à leur vie personnelle et surtout professionnelle, transformant ceux-ci en vulgaires fugitifs durant la deuxième saison. La musique de la série fait malheureusement musique de télévision, c'est-à-dire qu'il y en a trop et que celle-ci manque de justesse par moment, bien qu'elle reproduit quand même à certains moments dans les saisons là, des mouvements musicaux clin d'œil à la franchise. Tout ça pour dire que deux saisons de 10 épisodes, ça se regarde assez bien pour tout amateur. Donc, Exorcist, la télésérie, c'est quelque chose que vous pouvez voir sans difficulté. C'est une série que je vais coter 4 comme telle, surtout la deuxième saison. Là, la première saison, je la coterais 5 comme telle, mais la deuxième série, je la cote 4. Et c'est une série que je vous dirais, là, s'écoute à peu près pour les gens de 14 ans et plus. Du côté de la trame sonore, eh bien, pour Exorcist 3, pour Exorcist The Beginning, ainsi que pour Dominion Prequel to the Exorcist, il n'existe aucune trame sonore pour ces trois films, malgré que je vous dirais que pour Exorcist 3, eh bien, j'ai ici une cassette 4 pistes de la trame sonore. Je n'ai pas été capable de rien trouver au niveau du CD, mais c'est quand même quelque chose qui se trouve quelque part là, sur le marché secondaire. Au niveau de la série télé The Exorcist, eh bien, vous avez l'étiquette Millen Records qui a sorti un CD de la trame sonore de la série au complet. C'est un CD qui a été distribué le 5 juillet 2018. Du côté de la sortie DVD, eh bien pour le film The Exorcist 3, le film est disponible en DVD, en Blu-ray ainsi qu'en 4K. Cependant, la version française n'existe présentement que sur la version DVD. Je ne l'ai pas trouvée sur l'édition Blu-ray ou sur l'édition 4K. Pour le film Dominion, Prequel to the Exorcist, ainsi que Exorcist The Beginning, eh bien, le film peut être trouvé en séparés et ensemble, que ce soit en DVD ou en Blu-ray, vous êtes capable d'avoir les deux films dans les deux langues. Et je vous suggère fortement le coffret The Exorcist, The Complete Anthology, qui comprend bien sûr les cinq films de la saga dont je vous ai parlé dans les deux dernières émissions. C'est un coffret qui inclut quand même toutes les versions, à l'exception de Exorcist 3, le Director Scott, mais vous avez quand même Exorcist, les deux versions, Exorcist 2, Exorcist The Beginning et Exorcist Dominion, ainsi que la version cinématographique de Exorcist 3. Donc, c'est un coffret que je vous suggère d'avoir fortement dans votre collection. Pour les amateurs de la série télé maintenant, eh bien, vous êtes capable d'avoir les deux saisons séparées cependant en DVD, soit Exorcist saison 1 et Exorcist saison 2. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.